Bienvenue sur ce balado « Pensée pour les femmes de 40 ans et plus ». Je suis Evelyne Robert, votre animatrice, et je suis heureuse de vous partager ces précieuses entrevues qui m'ont permis de découvrir les différents piliers de la santé intégrative. Grâce à mes précieux invités, chaque épisode est une occasion pour réfléchir et apprendre parce que chaque vision holistique de la santé donne des outils pour le meilleur de soi. Bonne écoute!
J'ai découvert cette femme dans un épisode de Autrement dit, En amour, dans lequel Marie-Lou explorait ce thème avec elle. Elle parlait avec justesse et tendresse du couple, de l'intimité, de la séparation et de la spiritualité. Tout de suite, j'ai voulu entrer en contact avec elle pour qu'elle soit l'une de mes invitées. Cette amie Gladys Tossa détient une maîtrise en thérapie conjugale et familiale de l'Université McGill et un baccalauréat en travail social. Elle est inscrite au tableau de l'Ordre des travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux du Québec et de l'Ordre des psychologues du Québec. Pour n'en nommer que ceux-là, elle a exercé à la Direction de la protection de la jeunesse auprès des personnes âgées, en milieu carcéral, en santé mentale, en maison d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales. Clinicienne et formatrice en psychologie, ses amies Gladys Tossa pratique en privé auprès des individus, des couples et des familles. Bienvenue, ses amies! Je suis très contente de te recevoir.
Oh, merci, Evelyne. C'est tout un plaisir pour moi d'être là.
Comme je disais en introduction, je t'ai découvert à travers une émission, l'émission de Marie-Lou au sujet de l'amour, ce sujet qu'on parle trop peu souvent. Dis-moi, cette amie, de où, quel est ton parcours, de où tu arrives? On en a parlé un peu, mais comment une femme choisit de devenir psychothérapeute?
Je dirais que quand j'étais plus jeune, selon ma mère, je n'avais pas ma langue dans la poche. Donc, il y avait le besoin de faire quelque chose avec cette langue-là. Donc, ça m'a guidée là. Mais il y a aussi le désir, c'est de contribuer. Le désir de contribuer. Ma première formation, mes premières études, c'était en communication, mais pas ici. Donc, il y avait cette envie-là de contribuer, de faire partie d'eux, d'amener ma part. Donc, quand je suis venue au Québec, c'est comme, OK, comment est-ce que je peux le faire? Et que ça pourrait faire du sens pour moi dans cette nouvelle expérience d'être dans un autre pays. Donc, ça m'a amenée au travail social parce que je suis passée à travers tous les programmes. J'ai trouvé le travail social. J'avais une voisine travailleuse sociale. Je suis allée la voir. Elle était en amour avec son travail. Elle m'a amenée dans son travail. C'est comme, OK, c'est ça que je veux faire. Donc, tu vois, ça a été comme plusieurs arrêts. Mais la rencontre avec cette voisine, elle a été décisive aussi pour moi parce que c'était son expérience, son vécu. J'ai été charmée par ce qu'elle vivait dans son travail. Mm. Et ça a été comme, OK, ça répond à ce que je recherche. Je suis là-dedans.
Tout a commencé par une inspiration, donc.
Absolument. Absolument. Inspiration en fonction de comment je me sens avec moi-même en termes de, oui, ma langue, elle est là, elle parle beaucoup. Donc, on va lui donner un rôle dans la vie, OK, et la bonifier d'une certaine façon et la rencontre de cette voisine.
Et j'imagine que ta contribution, tu as senti que ça allait être au niveau du bien-être. Est-ce qu'à ce moment-là, c'était déjà... tu avais déjà une idée de quelle façon tu voulais ou avec quelle approche tu voulais travailler?
L'approche, ça a été une découverte en chemin. Maintenant, comment est-ce que j'allais aider ou contribuer? C'était clair que ce serait avec les êtres humains, d'être en contact avec les gens. C'est comme je dis, j'aime beaucoup parler, écouter aussi. Donc, c'est comme de pouvoir... Cet échange-là, cet espace-là d'échange où les idées se déposent et je peux t'influencer, tu peux m'influencer et qu'il y a comme une ouverture qui s'est créée entre nous, c'est quelque chose qui m'a toujours fascinée. Et les comportements humains aussi, je veux les comprendre. C'est qui cette personne? Donc, c'est comme ça m'alimente, ça me donne de l'énergie et les approches, c'est venu comme, c'était comme savoir, ah, ça me ressemble. C'est quand tu es quelque part, tu as l'impression, ah oui, c'est comme ça que mon cerveau pense. Ça, c'est comme ça que les approches m'ont trouvé ou que je les ai trouvées. Donc, c'est comme ça allait avec ma façon de penser, mon élan naturel de penser. Donc, quand je prends des approches systémiques et autres, mais mon cerveau, il fonctionne comme ça. Il veut voir les gens dans leur globalité. Il veut voir toutes les influences. Il veut voir comment est-ce que les gens, ils interagissent ensemble. C'est quoi les dynamiques qui sont sous-jacentes. Donc, quand j'ai rencontré l'approche systémique, c'est comme, ah, OK, je suis à la maison.
C'est intéressant que tu dises ça, puis ça me confirme pourquoi je voulais te rencontrer. Parce que tout ce processus-là vers une belle carrière, c'est passé beaucoup par l'intuition. Et je pense que c'est à la base, là, d'une certaine vérité. Et j'adore ça. J'adore côtoyer la vérité des gens. Dis-moi, est-ce que tu remarques les défis que les femmes vivent? Parce que le podcast s'adresse surtout, il y a des hommes qui écoutent, mais s'adresse surtout aux femmes de 40 ans et plus. Est-ce que, avec les époques ou avec, je veux dire, avec les décennies, est-ce que les défis changent ou se ressemblent? Et quels sont les principaux défis actuellement? Donc, c'est trois questions en une. Donc, est-ce que les défis, est-ce que tu remarques que, on est dans une décennie où, par exemple, là, je dis une décennie, mais un bloc d'années où vraiment les femmes ont des défis à cet endroit-là, puis maintenant c'est plus autre chose, ou c'est vraiment de façon globale un peu les mêmes défis qui reviennent?
Il y a des défis qui sont là, qui se ressemblent. La voix de la femme, il y a toujours un défi autour de ça. C'est la visibilité de la femme. Quand est-ce qu'elle est vue? Et pourquoi et pour qui? Ça, c'est une question qui demeure. C'est une bataille qui demeure aussi. Une bataille qui est autant à l'extérieur de nous qu'à l'intérieur de nous. C'est des changements. Il y a plus d'espace pour s'exprimer, pour être entendu. Les femmes sont sur le marché du travail. Tu sais, il y a 60 ans, 80 peut-être, on n'aurait pas pensé à ça, quelques-unes. Mais il y a plus de femmes sur le marché du travail, donc elles ont plus de pouvoir aussi. Tu sais, si je prends le pouvoir financier, ça permet d'avoir accès à certaines libertés. Et je ne peux pas dire que c'est toutes les femmes qui ont accès à ce pouvoir-là financier. Tu sais, il y a des endroits dans le monde où c'est pas la même réalité. Donc oui, ces défis sont encore là, mais il y a des changements si je prends le Québec. Si je prends sur le plan de la sexualité, par exemple. Tu sais, une femme, je sais pas moi, qui sort avec un homme plus jeune, il y a un nom qui est collé à ça. C'est pas nécessairement valorisé. Mais un homme de 40 ans qui sort avec une jeune fille, une jeune femme de 20 ans, c'est, on le voit sa puissance et puis, c'est, il peut même être admiré par certaines personnes. C'est pas des jugements de ma part. Je fais la comparaison de dire, mais si un homme d'un certain âge peut sortir avec quelqu'un plus jeune, pourquoi est-ce que quand la femme le fait, les commentaires sont accompagnés de jugements négatifs? Donc, avec toutes les questions qui sont sur la place publique aujourd'hui par rapport à la sexualité, une femme peut séduire sans être qualifiée de garce, par exemple. Donc, il y a comme des changements. Ça prend un certain temps, mais tranquillement, on s'en va vers là où la femme peut avoir une place sans se changer, sans devenir quelqu'un d'autre. Donc, je peux observer ça. Elles parlent plus. Elles savent aussi un peu plus ce qu'elles valent. Et je me dis, mais plus nous prenons de l'âge aussi, plus ça comme cet espace-là où je me connais un peu plus. Et plus je me donne le droit de me connaître, moi je laisse les autres décider pour moi qui je veux être et qui je peux être. Donc il y a comme tout ça qui est dans l'air. Et je crois et j'espère et je rêve que ça continue et que les femmes puissent tenir debout dans toute leur dignité comme être humain. Qu'est-ce que je réponds à ta question?
Oui. J'ai l'impression que ça demeure quand même un sujet fragile, un sujet On oublie trop facilement qu'il y a eu des grandes luttes menées par les femmes pour arriver là où on est. Et effectivement, c'est pas partout où les femmes ont cette liberté. Donc, ne serait-ce que pour les femmes d'ailleurs, tu sais, il faut poursuivre cette lutte-là, je pense. C'est intéressant est-ce que dans vos bureaux de psychothérapeute, est-ce que les femmes vous parlent de ça?
Je peux dire que c'est comme les femmes, on a, il n'y a pas une réalité qui est, c'est pas homogène. La réalité, elle est unique à chaque personne parce qu'il y a comme plusieurs facteurs hein, qui viennent influencer. C'est bon, je ne sais pas si ça paraît encore, mais je suis noire, n'est-ce pas? Donc, je
Ça
suis
paraît.
noire. Ah ouais, ok,
Et
je
c'est
suis noire.
magnifique, et c'est magnifique.
Je suis noire, je viens d'ailleurs. Non, je suis déjà en train de mettre plusieurs couches hein, pour répondre à cette question. Et ça va influencer mon rapport avec l'environnement et le rapport de l'environnement avec moi. Et quand je vais combiner, tu vois, je suis en train de parler un peu systémique ici. C'est quand je vais combiner tout ça, mais ça va avoir une incidence sur la perception de qui je suis, les droits que je pense que je peux avoir. Okay. Et ça va avoir me pousser à certains types de comportements. Donc, quand je vais avoir une femme dans mon bureau, il faut que je regarde toutes ces couches-là, okay, qui sont, ça peut être des facteurs qui vont peut-être l'aider à exprimer son plein potentiel, comme des facteurs de risque qui peuvent peut-être l'amener à se censurer. Donc, les réalités sont uniques. Je ne peux pas témoigner d'une seule réalité ici, mais je vais dire qu'il y a un éventail de réalités. Donc, elles ne viennent pas avec les mêmes histoires, elles ne viennent pas avec les mêmes défis. Parce que je n'ai même pas encore ajouté leur histoire familiale là-dedans. Donc, tout ça va influencer comment est-ce que je vais me percevoir, comment est-ce que je vais me promener dans le monde et comment je vais voir le monde aussi. Donc, immigrante, femme, noire, pouf. Si je mets là-dedans des affaires de discrimination, microagression dans le quotidien, etc., ça peut façonner comment je vais marcher dans la rue, qui je regarde dans les yeux ou non, c'est à quel genre d'emploi je vais appliquer, à quoi je vais m'attendre, est-ce que je devrais travailler plus que d'autres personnes, est-ce que rendu à un certain âge, je peux oser demander une promotion ou non, ou j'accepte de rester là où on veut que je sois. Il y a comme toutes ces choses-là qui sont là dans notre réalité, sans ajouter pour les gens qui ont des enfants. C'est comme, c'est un autre facteur. Et enfin, est-ce que tu es dans un couple avec quelqu'un de ta culture, quelqu'un d'une autre culture? Qu'est-ce qui est autorisé dans cette relation-là? Comment est-ce que vous êtes avec vos enfants? Ton rôle de mère, comment est-ce que tu définis ça? Est-ce que l'autre personne voit ce rôle comme... Je t'ai dit, les réalités sont vraiment diversifiées.
Ben oui, chaque chemin est tellement différent.
Oui.
Tout le monde arrive avec son bagage, ses expériences et tout.
Avec l'influence de la société et l'époque, parce que ça bouge pas mal ces temps-ci autour de nous, là. Si je prends sur le plan politique, ça a une influence aussi sur qu'est-ce
Oui,
que nous vivons.
absolument, absolument. Donc, dirais-tu que, parce qu'on dit souvent que chaque être humain a un impact sur sa communauté. Donc, les femmes ont un impact sur la communauté de femmes. Chaque femme a un impact sur...
Absolument,
Donc, tu as parlé
absolument.
un peu d'intimité. Oh, je vais te laisser poursuivre. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose?
Ah non, mais parce que la communauté nous influence comme nous influençons la communauté. Et nous avons, si je reviens au mot que j'ai utilisé tantôt en termes, le mot contribution, c'est... J'ai aussi cette responsabilité-là en tant que femme de voir comment est-ce que je peux contribuer à cette grande communauté. C'est pas que ça devient une injonction, mais est-ce que ça fait partie de mes valeurs de contribuer? Donc, comment est-ce que je veux contribuer en tant que femme? Ça fait partie de mes décisions au quotidien. C'est quand, c'est quoi le mot, est-ce que le modèle que je veux donner aux autres filles? Parce que elles sont en développement. Donc, qu'est-ce que je projette? Ça a aussi un impact. Donc, nous avons la responsabilité en tant que femmes de penser à comment est-ce que nous voulons influencer. OK, ce concept-là de femme, c'est quoi une femme? Et je ne définis pas ça aussi aujourd'hui. C'est quoi une femme?
Et plus on va savoir qui on est, plus on va savoir, plus on va reconnaître notre valeur, je pense plus les hommes vont aussi nous reconnaître dans nos différences, vont reconnaître notre valeur.
Parce que j'ai tendance à croire que c'est quand c'est clair pour moi qui je veux être, quand c'est clair pour moi ce que je veux, ce que je peux, ma vision de la vie, quand il y a une clarté à cet endroit-là, ça veut dire que j'ai des frontières qui sont claires. Et quand mes frontières sont claires, c'est ma façon de pouvoir dire autour de moi et à moi-même, OK, c'est là où je me tiens. Et ça envoie un message clair autour de moi. Donc, même si les gens ne me croient pas, ceux qui veulent tester peuvent s'approcher. Ils vont se rendre compte que, hey, elle sait où est-ce qu'elle se tient et comment elle veut se tenir. Donc, si c'est intolérable pour ces personnes, elles vont s'en aller. Donc, celles qui sont capables de me voir comme je me vois et de pouvoir être en relation avec moi à l'endroit où je suis, nous allons pouvoir créer quelque chose ensemble. Donc, dans cette définition-là de est-ce que, si on parle en termes genrés, n'est-ce pas, c'est si ces hommes vont me percevoir comme la femme que je suis, la femme que je veux être, je veux tenir aussi. Et je ne peux pas tenir seule. En tant qu'individu, nous pouvons tenir en tant que communauté.
On est plus seul, hein, de plus en plus seul, je trouve, puis on oublie qu'on peut aussi être une communauté. Il y a de moins en moins de lieux, je trouve, autant pour les hommes que pour les femmes, pour se retrouver, pour connecter ensemble. Donc, et c'est tellement important de, je trouve, de trouver ces espaces-là. Parce que
Oui.
seul, on a moins de pouvoir, je trouve.
C'est plus le fun ensemble.
Ouais, aussi.
Oui.
Tu as parlé un peu, tu as abordé le sujet des enfants, de dire on va inspirer les enfants, on va devenir des espèces de mentors pour ces enfants-là, pour que petits garçons, petites filles puissent valoriser les femmes aussi. Donc, ça part vraiment de nous. Penses-tu qu'on le fait bien?
Aucune idée. Je me dis, ça dépend des endroits, ça dépend des moments. Et je reviens encore à ce concept-là de si je peux influencer une personne et que cette personne-là sort de là influencer une autre personne et que cette personne ou ces personnes influencent d'autres. Ça commence à faire effet boule de neige. Et c'est là où j'ai du pouvoir. Donc, j'ai tendance à me ramener à cet endroit-là où je peux assumer ma responsabilité, qui peut être en cohérence avec mes valeurs et mes choix. Et c'est là où je peux changer quelque chose. Donc, j'ai tendance à me tenir là.
Donc, à pas laisser quelque chose qui fait pas de sens sans exprimer ou sans nommer. Je vais prendre un exemple, ça me fait beaucoup penser à ça. Moi, j'ai deux ados garçons, puis je leur parle beaucoup, beaucoup de... Parce que là, les filles commencent à les... Ben, pas commencent, là, mais les intéressent de plus en plus et tout. Puis je les écoute beaucoup pour pouvoir mieux les guider. Puis dernièrement, j'en ai un là, qui a une nouvelle petite fréquentation, puis je l'entendais dire à la jeune fille, ma mère m'a dit, puis j'ai eu l'impression que pour la jeune fille, ça devait être rassurant.
Il y a une
Puis,
maman en arrière.
ouais, c'est ça, exact. Donc, je pense que d'être effectivement à l'écoute, puis de prendre ce rôle de guide-là, ça n'a pas besoin d'être... si exigeant. Ça peut juste être, est-ce que je peux aider mes enfants à faire des bons choix et à faire des belles actions pour participer ou contribuer?
Absolument. Et il nous regarde, tu sais, ça n'a pas l'air de ça, mais nos enfants nous regardent. Et ce qu'ils vont le plus se retenir, c'est ce que nous avons fait. C'est parce qu'ils apprennent en nous observant et aussi en faisant des expériences. Et puis là, ils voient les conséquences. Ils peuvent tirer des leçons ou non à partir de ça. Mais un de leurs styles d'apprentissage, c'est l'observation, c'est de nous voir aller. Donc oui, nous pouvons dire les mots si nos comportements, nos gestes n'accompagnent pas ces mots-là, ce serait incohérent. Donc, si je le dis, c'est important que tu traites. En fait, je vais ramener ça à l'humanité. Parce que femmes, hommes, etc., nous sommes tous des êtres humains, n'est-ce pas? Des êtres humains qui ont des droits, qui méritent le respect, la considération, la visibilité. C'est important pour nous d'être reconnus, d'être vus, d'être aimés. Peu importe qui nous sommes. Et qu'en tant que femme, nous avons ces mêmes droits-là. Donc, de pouvoir montrer dans mes comportements, soit de traiter mon enfant ou les gens autour de moi avec cette considération, avec ce respect-là, avec une ouverture, il y a quelque chose que cet enfant apprend de moi, que ce soit un garçon ou une fille. Parce que, bon, on est en train de dire garçon, mais les filles aussi apprennent. C'est en regardant autour. C'est si je suis dans un couple hétéro, par exemple, et que ma fille voit ma relation à l'homme. Cet homme-là qui est mon partenaire. Est-ce que j'ai un espace pour parler dans cette relation? C'est comment ça se fait le partage de pouvoir dans cette relation-là? Est-ce qu'il y a de la collaboration ou non? Si en arrière, je suis en train de lutter, fais-toi respecter, hein? Mais dans le quotidien, elle est exposée à autre chose. Dans cet inconscient-là, il y a quelque chose qui se passe. C'est en train de définir pour elle ce qu'elle peut revendiquer dans une relation à l'homme. Et ça peut remonter à plusieurs générations, ça. Donc, pouvons-nous regarder, mais ça a été comment cette relation-là? Homme à femme, femme à homme, à travers plusieurs générations, c'est quoi les droits? Et si je veux briser un cycle pour la génération que j'ai en face de moi, puis-je tenir compte de ce qui s'est passé parce que je peux être teintée de ça sans m'en rendre compte? Je veux le savoir et je veux me voir aller. Et ça, c'est mon devoir de contribution, autant pour ceux qui sont dans mon noyau proche que pour la société que j'aimerais participer à construire. C'est ça.
Ça reconfirme que ça part, tout part de soi, hein? De comment on se traite soi-même.
Absolument.
C'est mon constat avec toutes les rencontres que j'ai. Chaque fois, ça revient à ça. Prendre soin de soi.
Oui,
Et
oui.
puis, j'avais le goût d'aborder, mais je ne sais pas comment l'amener. J'avais le goût d'aborder la sexualité, l'intimité avec toi chez les femmes. Ça dépend peut-être des besoins de chacun, là, mais c'est ça que tu vas me dire. Ouais. Parce que j'ai. Parce que c'est ça, je suis maman de jeunes ados, puis peut-être qu'il y a des grands-mamans qui nous écoutent et tout ça. Puis je veux pas qu'ils oublient cette notion-là parce qu'ils ont accès à beaucoup, beaucoup de choses sur les internets. Et puis, je veux pas qu'ils pensent que c'est que ça. Mais c'est difficile de leur montrer que pour moi, ce n'est pas que ça, parce que là, il faudrait qu'ils aient accès à mon intimité. As-tu des trucs?
Attends, on va aller chercher des Et tu as dit quelque chose d'intéressant. Tu as dit, ça voudrait dire, et tu me dis si tu as envie d'aller là, OK? Ou
Oui.
tu peux aller de façon générale. Tu as dit, ça voudrait dire qu'ils vont avoir accès à mon intimité.
Oui.
Et je me dis, Qu'est-ce qui arriverait s'ils ont accès à cette intimité et quelle partie de cette intimité? Jusqu'où tu veux leur donner accès? Ce qui me ramène à la question de c'est des frontières, où est-ce que je veux tracer la ligne? Donc, est-ce que c'est une porte que j'ouvre, c'est une fenêtre que je vais ouvrir sur cette intimité-là? Qu'est-ce qui est important pour moi à partager avec ces enfants-là pour qu'ils sachent que nous pouvons avoir des conversations sur la sexualité? Et nous pouvons enlever les tabous pour pouvoir apprendre et donc pouvoir le servir de guide pour que Internet ne soit pas le seul guide. Donc, je ne sais pas si. Hey, je suis en train de tourner le micro. Je suis en train de te poser.
Non, non, je trouve ça.
De retenir les questions. Oh my God, est-ce que ça te va?
Ça fait vraiment du sens pour moi, dans le sens que chez nous, par exemple, si on veut parler de chez nous, on parle de sexualité ouvertement, mais je me demande comment, je ne sais pas comment aborder la spiritualité, puis la connexion profonde, puis la. Bon. Est-ce qu'on laisse aller puis ils vont l'apprendre chacun son chemin? Peut-être.
En tant que parent, tu as parlé des ados et je me dis, quand ils sont rendus à cet âge-là, nous avons ce rôle-là, si tu veux, de consultant. N'est-ce pas? C'est de consultant et c'est de rester là et pouvoir jouer ce rôle. Et Internet veut nous remplacer. OK. C'est facile pour eux aussi d'aller là-dessus. C'est comme un clic et tu as accès à plein de choses. Donc, et encore là, ça dépend de chaque famille, ça dépend de mes valeurs, ça dépend de ce que je veux mettre de l'avant. En même temps, je veux m'assurer que mon point de vue est connu. C'est donc, si pour moi, la sexualité ne se limite pas à un moment de plaisir, mais qu'il y a d'autres choses qu'on peut tisser autour. Mais est-ce que je peux leur présenter cette forme de sexualité? Comme ça rend un peu plus comme diversifier leur connaissance sur la sexualité et ils vont pouvoir se définir. Donc, je veux garder les portes ouvertes pour les accompagner là-dedans. Est-ce que je vais m'empêcher de dire ce que je pense? Non, ça se peut qu'ils ne soient pas d'accord, ça se peut qu'ils aient des influences, des amis, etc. Mais c'est ça qui rend encore la conversation plus riche. Parce que s'il y a comme cette ouverture-là où ils peuvent venir et puis, ah, j'ai entendu ça. Des fois, ils lancent des affaires comme ça, ils vont dire, c'est Paul qui pense ça. Mais ils sont en train de tester, voir qu'est-ce que maman pense de ce que Paul pense. Non, ça me donne l'opportunité d'aller chercher ce que eux, ils pensent de ce que Paul pense. Et là, ça me donne des portes peut-être pour amener des choses, si c'est vraiment le moment. Et des fois, juste de semer des graines. Ils ont la capacité de les arroser pour que ça pousse. Et je veux garder cette ouverture-là où on peut amener toutes les préoccupations, parce que c'est là où j'ai un certain pouvoir d'influence encore sur mes ados, pour qu'Internet ne m'enlève pas tout ça. Donc, peu importe le style de sexualité, pouvons-nous en parler? Et est-ce que tu sais ce que tu es en train de prendre comme décision? Es-tu prêt à assumer ce qui vient avec les choix? Parce que peu importe les choix que nous faisons dans notre vie, ça vient avec des conséquences. Il y a des conséquences qui sont agréables, il y en a qui sont désagréables et tout ce qu'il y a entre ces deux-là. Donc, je veux entraîner mon enfant à pouvoir utiliser sa capacité de discernement. Parce que si je sème ça, je peux aller me coucher. Je sais que cet enfant-là pourra prendre les meilleures décisions. Ça, c'est ma job en tant que parent, de semer cette capacité-là, de pouvoir l'aider à développer ça. Et je peux être tranquille. Donc, tu veux vivre ta vie sexuelle? Fine. Mais qu'est-ce qui vient avec? C'est cool, mais ça vient avec des responsabilités. Parce que si tu vis cette sexualité avec quelqu'un ou plusieurs personnes, c'est des êtres humains qui ont besoin aussi d'être respectés, d'être considérés et tout ce qui vient avec. Est-ce que tes choix tiennent compte de ça? Est-ce que le choix t'offre ça? Pouvons-nous aller regarder ça? Donc, veux-tu avancer là-dedans? On est adolescent, on sent des. On peut sentir le fourmillement à l'intérieur de notre corps. Il change des sensations qui n'étaient pas là quand on avait 5 ans, mais ça dépend encore des enfants. On peut avoir 3 ans et puis avoir déjà eu des sensations parce que, bon, mon clitoris m'a parlé une fois que je l'ai frotté sur la coudoir d'une chaise et puis ça fait découvrir des choses. OK. À l'adolescence, c'est plus présent parce que, bon, le corps est en changement, etc. Mais ce n'est pas parce que j'ai vu quelqu'un à l'école et mon cœur s'est emballé ou une autre partie de mon corps s'est emballée, que ça veut dire absolument qu'il faut que je l'exprime de façon sexuelle. Donc, pouvons-nous avoir ce genre de discussion? Est-ce que tu sais ce que tu es en train de choisir?
C'est tellement ce que tu dis, je trouve qu'on pourrait transférer exactement ce que tu viens de nous donner comme piste de réflexion à nous les femmes de chaque, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, on pourrait se poser ces mêmes questions parce qu'à chaque époque de notre vie, notre corps aussi réagit différemment, notre corps répond différemment, a des besoins différents. Donc, je pense que c'est... Oui, à partir de l'adolescence, si la femme ouvre sur ces sujets-là, ben peut-être qu'après la femme, au cours de sa vie, pourra se reposer ces questions-là.
Ça, c'est comme, c'est pas parce que je voulais quelque chose il y a 10 ans, ça dit, je le veux encore aujourd'hui. Tu sais? Et ça, c'est important de savoir. J'ai besoin de savoir. De savoir ce que je veux. Parce que sinon, comment je vais le dire? Et comment l'autre peut-il le savoir? Et puis, l'adolescence, c'est des fois ce que moi j'ajoute, c'est est-ce que tu te connais? C'est bien beau de vouloir partager, etc. As-tu une connaissance de toi? C'est sûr que pour les jeunes garçons, il y a le focus sur le fameux pénis. Ils sont plus que ça. Ils sont plus que ça. Donc ça, je peux l'amener aussi dans mes discussions. T'es plus que pénis. Mais comment? Comment est-ce que je peux l'amener à voir qu'il est plus qu'un pénis? Parce que ça évolue aussi, ce fameux pénis-là. Il n'est pas le même à tous les âges. Donc, tu vas faire quoi quand il va changer si tu n'es qu'un pénis?
Ah, c'est bien ça.
Il a plein de choses à explorer. C'est
Ah ouais, avec ce même questionnement-là, on peut se transférer
plein de
dans plein de
choses.
sphères, ouais.
Oui. Oui, c'est important.
Avant le début de l'enregistrement, je te disais que j'avais flirté avec ton site web, puis que j'avais beaucoup aimé ta manière de, ben parce que j'ai compris que toi, tu parles pas, tu parles aussi de limites, mais tu parles de frontières. Puis je te disais à quel point j'avais aimé ça parce que je trouve que les limites c'est rigide, mais les frontières c'est malléable. Puis là, tu viens de dire les ça peut changer, donc nos limites peuvent aussi changer.
Ah, absolument, absolument. Même sans changement au niveau de l'âge, dépendamment de, c'est comme par exemple, c'est quand tu es en train de dire à ton enfant, par exemple, quelque chose que tu n'aimes pas, ou c'est, tu voulais ça et puis ça ne s'est pas passé, bon, bla bla bla. Tes limites sont pas comme ça. C'est pas des passoires. Okay, en ce moment-là. Mais par contre, le soir, quand vous lisez l'histoire, pour ceux qui font ce genre de rituel-là, c'est qu'ils lisent l'histoire de dodo, etc., où vous êtes dans votre routine. Mais ils sont plus. Je dirais qu'il y a plus de trous là-dedans. Non, c'est pas une ligne fermée. Parce que ce contexte-là, ça demande à ce qu'il y ait comme des espaces pour que nous puissions nous retrouver dans ce moment où on se colle, on écoute l'histoire, etc. Donc, c'est nécessaire cet espace-là. Non, ce n'est pas une ligne qui est ferme, mais ça peut être une ligne en pointillé, par exemple, dans ce contexte spécifique. C'est ça qui me permet de m'abandonner dans ce moment-là, de pouvoir profiter de ta présence. Et vice-versa. Donc, il y a différentes formes à nos limites. Et ça va dépendre du contexte. Qu'est-ce qui se passe? Donc, j'ai besoin de me servir de mon corps pour savoir est-ce que mes limites ont les bonnes formes en fonction du contexte dans lequel je suis. Et ça peut évoluer avec le temps, l'âge, mes valeurs, ce qui est important pour moi en ce moment, le type de personne que j'ai en face de moi, ça aussi, ça change.
On se revisite en fonction de notre environnement beaucoup.
Oui. Et comment je vis l'environnement? Parce que mon repère pour savoir ce qui se passe dans l'environnement, c'est dans mon ressenti, c'est dans les sensations qui sont dans mon corps. Ça me donne l'information. C'est comme quand tu sors en hiver, il y a un petit vent frais, on fait comme ça. Tu as la sensation qui te dit, ouf, OK, il me manque une couche de vêtements ou deux. T'sais? Mais ces sensations viennent te dire, il fait froid et peut-être que tu n'es pas assez bien habillé. Et c'est ça qui fait que je vais peut-être sortir de mon sac, mon foulard ou n'importe quoi. C'est comme ça que je sais que j'ai soif. Donc, c'est de l'information que je peux utiliser. Donc, il y a l'information qui vient de l'intérieur de moi. Donc, les sensations qui sont là, qu'est-ce que mon corps me raconte, ce que mon cerveau me dit. Il y a ce que mes yeux vont voir autour de moi. Donc, je prends aussi l'information de l'extérieur. Et quand je combine tout ça, ça fait un portrait global pour pouvoir décider de ma posture dans cette situation spécifique. Et ça aide à choisir ses limites aux frontières.
Les belles frontières, de s'ajuster. C'est OK de s'ajuster en fonction de comment on évolue.
Oui.
Il y a le fameux, je ne sais pas si on va avoir le temps. Oui, on va avoir le temps. Il y a le fameux, ben, j'allais aborder avec toi la culpabilité qui est tellement présente chez beaucoup de femmes. La culpabilité. Et ou le syndrome de l'imposteur, des fois je pense que ça va peut-être un peu ensemble, peut-être pas, mais c'est les deux sujets, mais en tout cas, du moins, on va commencer peut-être par la culpabilité, qui est un sujet qui est porté par beaucoup de femmes, autant dans la famille, autant, tu sais, si la famille va bien ou si on est moins là pour nos enfants, est-ce que tu penses que ça vient du fait qu'on s'est donné beaucoup de responsabilités.
Je dirais, il y a les attentes sociales. Je sais pas si je dirais que les femmes se sont donné beaucoup de responsabilités, mais plutôt que la société leur a choisi les rôles qu'elles devraient accomplir, comment est-ce qu'elles doivent accomplir ces rôles-là, ce qui est attendu de la femme. Donc, parce que tantôt je disais, c'est quoi une femme? C'est en train d'évoluer cette définition. Il y a de plus en plus de revendications implicites et des fois explicites. Pouvons-nous redéfinir c'est quoi une femme? Puis choisir c'est quoi une femme pour moi? Mais en attendant socialement, quand c'est dans l'éducation. C'est ce que c'est attendu de la petite fille. Est-ce que quand elle va calmer l'ami qui pleure, c'est valoriser? Ça commence à la définir. C'est comme ça que tu es reconnue. Il y a ça aussi qui peut influencer tout ce qui repose sur les épaules des femmes. Donc, je dirais plutôt, il y a les attentes sociales. Comment est-ce que ces attentes-là sont inculquées? Donc, il y a l'éducation qui s'ensuit. Ce à quoi nous avons été exposés? Et c'est important pour nous d'être reconnus, d'être valorisés, d'être vus, d'être aimés. Donc, en tant qu'être humain, nous allons faire tout ce qui est à notre pouvoir pour que ces besoins-là soient répondus. Et les femmes ont appris que, en général, les femmes ont appris que c'est au détriment de leurs besoins. Donc, il y a tout ce contexte-là, je dirais, culturel, social, familial, qui vient comme tisser ces choses-là autour des femmes. Il fait que quand je vais aller me coucher, alors que ce soit, j'ai brûlé et je n'ai pas donné le bain à mon enfant, et je me sens donc bien mauvaise mère. C'est important de travailler sur cette culpabilité-là de est-ce que et ça revient encore, est-ce que je peux me donner le droit de me définir? Et prendre de l'âge aussi, il y a comme une liberté que nous ressentons un peu plus. Il y a un courage que nous ressentons un peu plus aussi, de pouvoir oser nous définir, de pouvoir choisir qui nous sommes, que peut-être nous avons moins à 15 ans, 14 ans. Donc, des fois, on regarde l'âge qui avance, on peut dire, my God, je prends de l'âge, plus de rides, plus de sommeil, le corps qui jeunit. Mais je veux voir ça comme une opportunité de pouvoir m'affirmer, mais dans toute ma dignité en tant qu'être humain. Donc, c'est aussi le moment, peut-être, si j'ai encore cette culpabilité-là avec moi, mais qui est à l'avant-plan, de me donner le droit de faire quelque chose avec. Est-ce que je suis obligée aujourd'hui dans ma vie de la laisser en avant? Ou elle peut être à côté ou en arrière? Est-ce que je peux augmenter mon niveau de tolérance par rapport à sa présence? Parce que ça se peut qu'elle ne disparaisse pas. Mais est-ce que je peux augmenter mon seuil de tolérance? Je sais ce qui je suis, ce que je vaux et dans quelle direction je veux aller. Elle va venir pour me parler. J'ai de quoi pour me tenir face à elle. Donc, je risque, il y a plus de chances que je ne suive pas le chemin qu'elle va vouloir me tracer. Nous avons ce travail-là à faire. Je pourrais
Parce qu'on est
continuer.
bonne pour on est bonne pour se reprocher, pour ne pas se trouver à la hauteur, ne pas se reconnaître. Puis je pense qu'entre femmes, on parlait de communauté tout à l'heure, tu sais, ça pourrait être une bonne idée que les femmes, on commence à se reconnaître dans tout ce qu'on est, dans tout ce qu'on fait. Peut-être qu'à ce moment-là, en tout cas, moi, j'essaie de le faire le plus souvent possible. Parce que il y a. Je suis entourée de jeunes mamans, puis tu sais, souvent les jeunes, elles arrivent, puis là, j'ai pas eu, tu sais, ça s'est mal passé ce matin, l'autobus, le lunch, j'ai pas à 100% comme je voudrais, c'est pas, on dirait qu'à partir du moment où on n'est pas 100% parfaite selon nos standards, la culpabilité embarque.
Elle ne chôme pas.
non, non, c'est ça.
Non.
Et, ouais, je pense que le fait de se reconnaître dans ce qu'on est, dans ce qu'on fait, le soutien des autres femmes peut aider aussi.
C'est pour ça qu'on va vers la connexion. Et quand elle est là, quand notre réseau est là, c'est comme si j'ai mon filet autour de moi. Et si je ne peux pas me rattraper dans un moment où je tombe, mais mon filet peut m'aider, soit à me rattraper ou à retrouver mon équilibre. Donc, d'avoir des gens qui peuvent me comprendre, mais qui ne viendront pas donner le biberon à la culpabilité, parce que on peut se juger entre nous. OK?
Oui.
Il suffit d'un regard, ton enfant est en train de pleurer, je peux te regarder et tu vas te sentir comme une mauvaise mère. Tu l'as mal éduqué. OK? C'est ça que mon regard est en train de... On peut se juger très bien entre nous. Parce qu'il y a ça qui est intériorisé aussi. Nous sommes des superwomen. OK? Et aujourd'hui, on doit être 100% bonne sur tous les fronts. Humainement, ce n'est pas possible.
Il faut trop souvent se rappeler d'être solidaire. Les femmes.
Mais nous tous, en tant qu'êtres humains, je vais élargir ça à tous les êtres humains, dans le sens que je crois à cette interconnexion, si tu veux. C'est comme homme-femme, peu importe comment est-ce que nous sommes en train de nous définir, parce qu'il y a toutes les personnes aussi qui ne se définissent pas comme ça. Donc, je suis en train de me dire, mais si nous pouvons nous tous nous traiter comme des êtres humains qui ont des droits en tant que respect, considération, que nous avons une valeur. Nous valons quelque chose. Peut-être pas la même chose, mais nous valons quelque chose. Et ça a besoin d'être reconnu, que nous avons tous besoin d'être vus comme des êtres dignes, d'être aimés, dignes d'avoir une place, dignes d'avoir une voix, dit d'être tout court, ce monde serait différent. Donc, je vais élargir ça à tout le monde et j'ajouterai si nous commençons à nous traiter de cette façon-là, nous pouvons changer ce monde. Mais c'est
Encore
ce
une
en quoi je
fois,
crois.
encore une fois, ça part de nous. S'accorder cette dignité-là.
Oui. C'est nécessaire.
S'accorder la tendresse, s'accorder de l'acceptation. C'est sûr que quand on se l'accorde après, c'est plus facile de l'accorder aux autres. Donc, c'est peut-être ce que je sens chez les femmes, cette espèce de ce que je disais tout à l'heure, là, de pas. C'est drôle, c'est loyauté le mot qui me vient. Loyauté les unes envers les autres. Ça parle de chacune de nous. Donc, il y a encore du travail à faire. Je pense qu'on est sur un beau chemin, mais il faut continuer de le marcher.
C'est pas le temps de dormir.
Non,
Non, non, non. Non.
non. Oui.
Non, c'est pas le temps. Donc, on reste réveillé.
J'ai eu quelques femmes qui m'ont parlé du syndrome de l'imposteur, particulièrement dans des milieux masculins, mais aussi des fois entre femmes. Des fois entre femmes, le syndrome de l'imposteur, est-ce que ça vient d'un manque de confiance en soi ou est-ce que c'est, encore une fois, est-ce que ça vient de la société? Le fait, parce que c'est arrivé, ça arrive souvent que les gens se sentent imposteurs. Les femmes me disent, on se sent imposteur.
Le syndrome de l'imposteur, c'est ça vient saboter notre confiance. C'est dans le sens que c'est si je prends comment est-ce que ça fonctionne un peu, c'est supposons que j'ai une tâche ou un projet dans ce milieu-là masculin dont tu parlais tantôt. Déjà, tu as dit un milieu masculin, ça dit qu'il y a une minorité de femmes.
Oui. Ben, le milieu pharmaceutique, le milieu de la sécurité publique, le milieu, de la médecine, de moins en moins, ouais, maintenant, mais quand
C'est
même.
ça.
Oui.
C'est ça. Et du fait qu'on est déjà minoritaire, il y a une pression. Une pression de se prouver. Une pression de montrer que tu es à la hauteur. OK? Juste en partant du fait que tu es minoritaire, tu es dans un milieu où tu n'es pas censé être. Donc, quand les gens te regardent ou non, mais toi, tu as l'impression que les regards sont tournés, okay, sur toi et que on surveille et que tu n'as pas le droit de faire des erreurs. Donc, tu vois, je viens de déposer deux croyances déjà, de ne pas être à la hauteur. Okay. Le droit de ne pas pouvoir faire des erreurs. Donc, ces croyances-là vont alimenter, okay, ce syndrome-là. Donc, supposons que j'ai ce fameux projet-là à faire. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais commencer à sentir une anxiété parce qu'en arrière, là, se jouent ces croyances-là. Donc, je peux inviter ces personnes-là à se demander, c'est quoi les croyances en arrière? Qu'est-ce qui a amené ces croyances-là aussi? Parce que nous ne naissons pas avec ces croyances. Okay? Il y a quelque chose qui les a construites, créées et que nous avons dû intérioriser à un moment donné. Okay. Donc, ça va commencer à activer ces croyances dans ma tête. Je sens l'anxiété qui va monter. Et quand l'anxiété est là, c'est pas vrai que j'ai accès à 100% de mon cerveau qui résonne. N'est-ce pas? Donc, ça va me pousser à différents types d'actions ou de comportements. Donc, je peux attendre jusqu'à la dernière minute parce que j'ai peur d'échouer. Et l'échec, comme je viens de le dire, n'est pas une option. Donc, la veille, je vais me réveiller et je vais clencher. Même s'il faut que je me couche à 5 heures du matin et me réveille à 6 heures, je vais clencher parce que l'erreur n'est pas ou l'échec n'est pas une option. Donc, je peux procrastiner. Comme ça peut m'amener de l'autre bord, je vais perfectionner. Si je vais dans le perfectionnisme plus, 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 plus. Ce qui fait que je vais laisser tomber peut-être les autres domaines de ma vie. Pendant que je fais ce projet, et tu vois, tu parlais de la culpabilité, là, de la maman, etc., tantôt, mais je suis dans un milieu, c'est que tu es dit masculin, Oh, je suis pas censée être là. Je me sens surveillée. Je dois faire mes preuves. Ma famille, elle est importante. Mais faire mes preuves. Le syndrome arrive. Je n'ai pas l'énergie, la tête et autres pour être là pour les enfants, la famille, peu importe c'est qui est là. Je vais aller vers ce perfectionnisme-là parce qu'il y a un enjeu très gros là pour moi. Je ne peux pas échouer. Pas une seule fois. Je ne peux juste pas. Donc, quand c'est là, ces deux stratégies, ça amène en général à une réussite. Parce que je ne peux pas échouer. Donc, je vais donner ce qu'il faut. Et plus que ça. Le problème, c'est que quand la réussite est là, je ne peux pas prendre ce plat-là et le déguster. Parce que mon cerveau va se souvenir. Oui, mais tu as attendu jusqu'à la dernière minute pour le faire. Oui, mais ça t'a pris 2 ou 3 fois plus d'énergie et de temps que les autres à côté. As-tu vraiment réussi tant que ça? Mais non. Et là, ça va me pousser à attribuer cette réussite-là à quelque chose d'autre à l'extérieur de moi. Ce n'est pas moi qui ai fait ça. C'est parce que finalement, mon gestionnaire, là, il n'a pas bien regardé ce que je lui ai fourni comme résultat pour ce projet-là. Sinon, il n'aurait jamais dit que c'est un A+. Oh, cette
Donc,
fois-ci, j'ai été chanceuse. Donc, je vais comme aller dans l'attribution à des facteurs externes, ce qui fait que je n'intègre pas la réussite à l'intérieur de moi pour me créer des facteurs de résilience pour la prochaine fois. Donc, je ne suis pas en train de me créer un bassin qui va me porter, donc des ressources qui vont me porter la prochaine fois que je vais me retrouver à faire quelque chose qui va impliquer ne pas échouer pour moi. Donc, une fois que c'est attribué à l'extérieur, je vais rentrer dans une phase où je vais me flageller, je vais me dénigrer. Et là, ça va venir comme alimenter encore plus les croyances en arrière de ce syndrome. Et ça va me laisser le goût de, et hey, je viens de les duper. Si seulement ils savaient. Si seulement ils savaient que je n'étais pas à la hauteur. Ils ne m'auraient pas donné cette médaille. Et ça fait mon beau cycle, si tu veux, du syndrome de l'imposteur. Ça ressemble un peu à ça.
Ah, c'est tellement bien expliqué. C'est
Merci.
tellement bien expliqué. Merci.
Merci à toi
Merci.
de me
Puis
poser la question.
je me demandais pourquoi je faisais des liens avec la culpabilité, mais tout est là. Et la confiance. Ouais.
Oui.
La confiance, j'avais une bonne idée que ça pouvait partir aussi de là, mais.
Oui, non, ça vient la saboter la confiance et puis ça me laisse un goût d'illégitimité. Donc, si tu prends ce mille-là, quand je finis ce cycle-là, je me sens encore plus illégitime d'être là. Donc, ça ne me permet pas de sortir du cycle.
Wow! Merci. Et on a abordé tellement de thèmes. J'avais pas, tu sais, je pense que j'aurais pu faire une rencontre avec toi de 2 heures. Mais l'idée est vraiment de donner des petites pistes. Puis de revenir à soi. Tu sais, se rappeler que la piste, c'est toujours de prendre soin de ce qui est là, puis qui a besoin qu'on prenne soin finalement. On est les meilleurs pour faire ça.
Oui, de retrouver notre courage à être authentique, le courage d'être nous, de retourner à la maison.
Cette phrase qui a été dite souvent par un de mes amis qui est un chef héréditaire algonquin, puis il dit, sa mère lui disait toujours, reviens à la maison.
Oui, nous avons une maison.
Un grand merci en tout cas pour cette belle rencontre généreuse, pleine de douceur, de tendresse.
Merci, merci à toi pour l'invitation. J'ai eu du plaisir. J'étais tellement excitée de participer que j'étais en avance.
Ta mère a bien fait de t'inspirer vers un métier de parole. Merci infiniment,
Merci,
puis
merci à toi.
au plaisir de te revoir.
Prends soin de
Merci.
toi.
Oui. Merci pour votre écoute. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à faire des pouces, des cœurs et des sourires.
à laisser des beaux commentaires et à partager. À bientôt!